Jérôme Bouvier, bonjour. Vous êtes l'un des acteurs majeurs des Assises du journalisme. Vous êtes vous-même journaliste également et vous êtes passé par des rédactions telles que RFI. Aujourd'hui, vous présidez l'association Journalisme et Citoyenneté qui organise cet événement devenu emblématique du monde journalistique français. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer les Assises du journalisme ?
Alors, on est en 2007, vous n'étiez peut-être même pas né, 2006, quand j'ai créé l'association Journalisme et Citoyenneté. À l'époque, j'étais journaliste, j'étais médiateur de Radio France, d'ailleurs. Et j'étais étonné qu'un métier comme le nôtre, qui est un métier public, qui est un métier dans l'avant-scène, avec la visibilité de la télé, de la radio, de la presse écrite, là, n'ait pas un rendez-vous annuel pour dialoguer avec le public, pour se rencontrer, d'ailleurs, entre les différentes communautés du journalisme, dialoguer entre elles et puis dialoguer après avec le public sur la façon dont on pratique notre métier, la façon dont on est perçu dans ce métier. Et donc, vous en rendrez compte, c'est un métier où il y a quand même beaucoup de tribus. Enfin, je prends le mot de tribu parce que un journaliste sportif ne considère pas forcément qu'il fait le même métier qu'un journaliste qui fait la politique ou qu'un autre. À l'époque, c'était encore plus marqué que celui qui était en presse écrite considérait qu'il ne faisait pas le même métier que celui qui était sur le web, on disait à l'époque. L'idée, c'était déjà de convaincre les quelques 35 000 porteurs d'une carte de presse, que c'est ça le chiffre aujourd'hui, c'est 35 000 cartes de presse en France, de se rassembler, de dialoguer sur ce qui faisait l'essentiel de notre métier, mais aussi d'aller vers le public, d'où le terme journalisme et citoyenneté, parce que la crise de confiance qui frappe les journalistes, elle est profonde, mais je ne sais pas comment on la résoudra, mais en tout cas, je suis sûr qu'on la résoudra que si on en discute avec ceux qui nous les écoutent, ceux qui nous lisent, ceux qui nous regardent, parce que c'est eux, à la fin, qui ont la capacité de dire « je coupe le bouton, j'achète pas le journal », ou je... Donc il faut dialoguer avec eux. Donc voilà, c'est ça le point de départ. Créer la première édition des Assises à Lille, puis maintenant, il y a 18 ans, et depuis 9 ans, nous sommes installés en Touraine, parce qu'il y a à la fois la proximité de Paris, que ce n'est pas à Paris, je ne voulais pas que ce soit à Paris, et puis, parce qu'il y a une école de journalisme reconnue aussi, et je me réjouis que des radios comme Radio Campus nous accompagnent depuis des années, et soient partenaires de cet événement.
C'est d'ailleurs, vous avez entamé un peu ma deuxième question, c'est vous êtes attaché du coup à Tours. Historiquement, les Assises, elles étaient itinérantes. Qu'est-ce qui a fait que vraiment vous êtes décidé d'arrêter cette itinérance et vraiment de s'installer à Tours, comme vous l'avez dit, peut-être pour ce côté où c'est proche de Paris, vous avez une école reconnue, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous rattache à cette ville ?
Alors, je vais être très honnête, j'aime beaucoup cette ville, mais je n'y ai aucune attache.
Okay.
Marie-Laure Augry, qui est vice-présidente de l'association, elle y est née. Elle a des attaches, moi je n'en ai aucune. Enfin, ça part d'un truc très concret, peut-être pas très passionnant, mais au début, on a fait les deux premières éditions à Lille. Donc, puis après, le Conseil de l'Europe à Strasbourg a dit « on aimerait bien que vous veniez faire votre événement au Conseil de l'Europe à Strasbourg ». J'étais assez flatté de ça, donc on a fait 2 ans à Strasbourg. Et du coup, on est parti dans une idée qui était un peu fausse, de dire on va aller au-devant des journalistes dans les territoires. Donc on a été à Poitiers, on a été à Metz. Mais en fait, ça ne correspond pas vraiment à la réalité du métier parce qu'il y a des départements où il y a peu de journalisme. Et que, qu'on le veuille ou non, une grande partie de la profession se concentre sur la région Île-de-France. Donc je me suis dit, quelle est la ville à une heure et quart de Paris? Parce qu'on a besoin de ça pour être... pour pouvoir faire venir des gens qui ont un agenda très complet et qui est une école de journalisme, etc. On prend un compas, ben ça, il n'y a que Tours, quoi. Et donc j'ai écrit aux municipalités tourangelles en disant est-ce que vous accepteriez qu'un événement comme le nôtre s'installe et s'enracine à Tours, puisque moi, après mon aspect très, très coulisses, cuisine, pas très intéressant, c'est que nous, on passait de plus en plus de temps à aller voir des municipalités pour leur expliquer ce que c'était, comment, machin. Et le public lui-même a besoin de temps pour s'approprier un événement. Mmh. Les grands festivals, je ne veux pas me comparer en aucun cas, mais je sais pas, le festival de Cannes, c'est à Cannes, et ce n'est pas une année à Cannes et l'autre à Marseille. Et les grands rendez-vous, les francopholies de La Rochelle, c'est à La Rochelle. Et, c'est pas... et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête de s'épuiser dans des questions secondaires pour se concentrer sur le contenu et de dire, ben voilà, les Assises du journalisme, c'est à Tours, point. Voilà.
Et vous avez juste évoqué le fait de ne pas vouloir le faire à Paris. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on ne fait pas vivre un événement comme celui-là à Paris. Parce qu'à Paris, l'intervenant, c'est beaucoup plus facile, hein, parce que vous voulez avoir un patron de chaîne qui a juste 2 heures devant lui, Il a un débat à 17h, il arrive à 17h05 et il repart juste 5 minutes après. Donc c'est beaucoup plus facile. Et en même temps, il ne se passe rien d'autre que la... Alors, ce qui est intéressant, et vous en êtes un exemple, moi depuis 3 jours, là, j'ai plaisir à voir ça, bah, c'est aussi un lieu où comme on est hors de son emploi du temps, on est hors de chez soi, on se voit, on prend le temps de discuter, on prend le temps de... Parce que c'est ça aussi la vertu d'un événement comme celui-là, c'est de dialoguer avec des confrères et des consoeurs, de dire tiens, j'ai des questions à me poser, tiens, j'aimerais bien faire la connaissance de machin, il est là. Et ça, à Paris, vous ne le ferez pas.
Ouais.
Et puis en plus, bah, parce qu'il y a suffisamment d'événements parisiens pour que... on ne joue pas de temps en temps la carte des régions, donc c'était hors de question pour moi de le faire à Paris.
On va continuer un peu sur les assises. C'est un événement qui s'est énormément développé ces dernières années. Maintenant, vous proposez même des assises ailleurs en France, à Marseille. On a pu voir en Méditerranée. Puis de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez une édition à Tunis, mais également en Europe, puisque en fin 2024, vous avez fait une édition à Bruxelles, en Belgique. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de pouvoir justement exporter, de proposer ces rencontres et cet événement des assises ailleurs tout de même que à Tours et qu'en France?
Alors, le premier acte, honnêtement, je ne l'avais pas programmé, je ne l'avais pas imaginé au début. Je vais être tout à fait honnête. Et pour Tours, on a commencé à avoir de plus en plus de demandes de confrères, de consoeurs des pays du Maghreb, du Machrek ou d'Afrique francophone qui voulaient venir participer aux assises pour eux aussi. Et comme on était francophone, qui n'avait pas la barrière de la langue, donc on a eu de plus en plus de demandes, mais pour des confrères pour qui c'était compliqué, parce que la prise en charge financière pour venir, obtention des visas, etc. Et au fur et à mesure que j'ai vu cet intérêt des journalistes de la rive sud de la Méditerranée, je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc je suis allé à Tunis, c'était encore dans les années 2016, où il y avait encore l'espoir des révolutions arabes. Et on a dit, ben, pourquoi ne pas créer une édition spécifique pour la rive sud de la Méditerranée, à Tunis. Et il y a eu une vraie dynamique, un vrai enthousiasme. Et donc, on a eu la première édition en 2018. On a eu plus de 800 journalistes de 30 pays de la rive sud et d'Afrique. Et donc, après, c'était ouvert par le premier ministre tunisien à l'époque. Enfin, c'était un truc incroyable, au-dessus de mes espoirs. Hein. Et donc, on s'est dit, ben, voilà, on va travailler sur deux pieds. Il y a Tours pour la France et la Francophonie, et puis pour la rive sud, Tunis. Et puis, voyant cela, on a été contactés, là, pas nous qui sommes demandés, par des institutions européennes et par des associations de journalisme européennes et par une école de journalisme, en disant, mais il n'y a pas de rendez-vous comme celui-là pour les journalistes des 27 pays de l'Union. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est née, en 2022, la première édition des assises européennes des journalistes de Bruxelles, où on fait la même chose, mais avec les journalistes des 27 pays de l'Union. Donc, aujourd'hui, on a donc effectivement Tours tous les printemps, un automne sur deux Bruxelles. Et la petite nouveauté, c'est que la situation politique s'est tellement dégradée en Tunisie, menaçant la liberté même des journalistes, avec des journalistes en prison, qu'on a dû reporter puis annuler la troisième édition des Assises de Tunis. Et donc on a pris la décision de tenir cet événement désormais à Marseille. Mais c'est vraiment tourné, ça sera en français, en anglais, en arabe. C'est vraiment tourné vers les pays d'Afrique et de la Méditerranée pour essayer de donner une suite à Tunis.
Incroyable. On va continuer maintenant un peu sur la deuxième partie de mon interview qui se concentre plus sur... Des expositions que j'ai remarquées sur cette 18e édition cette année, qui est axée d'ailleurs sur le thème des faits divers. Vous proposez 3 expositions, une qui est intitulée Croqueur d'audience, la deuxième Le fait divers à la une, et une troisième qui s'appelle Cliché d'audience. Dans un premier temps, j'avais envie de savoir pourquoi est-ce que vous aviez choisi ces œuvres et ces expositions à mettre en valeur cette année lors de cette édition.
Alors, on consacre le principe des assises du journalisme, c'est de célébrer le journalisme sous toutes ses formes. Donc le journalisme, c'est sur les écrans, c'est derrière les micros, c'est le web, mais c'est aussi dans les livres, donc d'où le salon du livre du journalisme, et c'est aussi le dessin de presse. On a exposé à chaque fois Plantu, Coco de Charlie, et on essaye de le faire dans l'espace public, là où sont les citoyens. Et à partir du moment où on a choisi le fait divers comme thème de cette année, Vous savez qu'il y a une particularité, je ne veux pas vous perdre dans l'histoire, mais la photo était autorisée dans les assises jusqu'en 1954, où là je suis sûr que vous n'étiez pas né, parce que même moi je ne sais pas, où c'était la très grande affaire criminelle de l'époque, l'affaire Dominici, où la presse a fait tellement d'excès à aller carrément coller ses appareils photos pendant le débat, sous les biens, qu'il a été pris la décision qu'il n'y aurait plus de photographes dans les. Et donc, première exposition, raconter cette histoire, c'est le barreau de Paris qui a conçu cette exposition, c'est raconter cette histoire du temps où la photo était autorisée dans les prétoires. Et donc, il y a les photos d'Andru, il y a les photos de Marie Bénard, des grands procès, des grands criminels. Et on trouvait que c'était intéressant de montrer un peu cette page d'histoire. Après, c'est le 54, on s'est retrouvé dans une situation où personne ne pouvait montrer d'image pour les procès. Il y a eu une frustration du public. Donc du coup, c'est créé petit à petit un métier très, très, très particulier. Il n'y en a qu'une quinzaine qui le pratiquent en France. C'est dessinateur judiciaire ou croqueur de judiciaire. Donc parce qu'eux sont autorisés et donc... Ils nous racontent, vous avez sûrement vu ces dessins dans la presse ou à la télé, ils nous racontent les procès à travers un dessin. Alors, c'est de l'aquarelle, c'est du fusain, c'est du crayon, il y a un peu de tout. Et c'est une petite communauté, on voulait la mettre en valeur parce qu'il n'y a jamais eu d'expo sur leur travail, qui est une expo collective. Donc on a demandé à 8 de ces dessinateurs qui ont tous couvert ou toutes couvert le procès Mazan de nous raconter au travers 5 de leurs dessins le procès Mazan. C'est ce que vous pouvez voir sur les grilles de la préfecture. Je trouve que c'est très fort, parce qu'on voit bien à quel point le style, la sensibilité de chacun donne une tonalité différente à la lecture du procès. Et ce sont un peu nos yeux, puisque nous, on n'y va pas. Ce sont un peu nos yeux dans le tribunal. Puis la troisième expo, elle est devant, sous vos yeux, là. C'est un moment d'histoire. On est partenaire de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve toutes les archives françaises de la presse. Et chaque année, on leur demande sur le thème une expo. Et là, c'est donc la presse et le fait divers. Parce que le fait divers et la presse, c'est une histoire très étroite. Les premiers journaux ont traité des faits divers. La passion du public qui fait vendre les journaux, ça a été le fait divers. Et donc, on a pu voir comment la presse évoluait. Il y en a un, notamment, je ne me suis pas rendu compte. On avait validé l'expo, mais il y en a un qui est extrêmement violent. La presse était d'une violence au début du 19e siècle. Ou du 20e, où il y avait les corps étaient montrés, même les décapités étaient montrés, enfin, parce qu'il y avait une appétence voyeuriste du public pour ça. Donc c'était intéressant d'avoir cette rétrospective historique sur l'évolution et le traitement du fait divers.
Et moi, je voudrais revenir un petit peu, justement, comme vous l'avez dit, sur que ce soit les croqueurs ou les photographes, justement, qui se rendent notamment dans les audiences. Est-ce qu'il y avait peut-être une importance pour vous aussi de proposer une approche aussi artistique du journalisme en montrant ces expositions ?
Oui, parce que... on est tous... vous êtes un jeune journaliste, moi, je suis un vieux journaliste, hein. On a tous un regard, on a tous une sensibilité, on a tous une culture qui fait qu'on est plus sensible à quelque chose qu'à une autre. Et à la fois notre recherche de non pas de l'objectivité, qui est un mot que je déteste parce qu'il n'existe pas, mais d'une honnêteté de l'information, c'est toujours au travers de notre regard. Quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire qu'on est plus sensible à un thème qu'à un autre, on est du fait de notre histoire. Et eux, c'est du fait de leur expression artistique aussi. Mais de même que dans la presse écrite, au bout des... un certain temps, on finit par reconnaître le style de quelqu'un. Et eux ont un style, ont une approche qui n'est pas du tout la même. Vous avez pu voir sur les dessins. Donc je trouve que c'est intéressant de montrer que la diversité des regards, ça peut aussi influer notre perception à nous. Puisque vous pouvez faire un dessin effrayant, ou au contraire très doux. Enfin, les portraits de Gisèle Pénicaud le montrent. Ce personnage qui est devenu, par son courage, un personnage iconique, central. Bah, selon qu'on le dessine de façon inquiète ou... de façon au contraire, cette force un peu rayonnante qu'elle a parfois dans le regard, ça change aussi notre regard. Donc c'est intéressant, je trouve, de montrer qu'on n'est pas là comme des robots à l'heure de l'intelligence artificielle qui racontent le monde de façon désincarnée, c'est pas vrai. Les journalistes, ça sera, je l'espère, longtemps encore, des gens qui vont aller sur le terrain pour raconter des histoires. Et dès qu'on raconte une histoire, on la raconte pas pareil selon qu'on s'appelle... je ne sais pas où, je ne vais pas donner de prénom, mais parce qu'on a nos personnalités.
Et totalement, et ça rejoint un peu ce que disait, j'ai pu assister à la conférence de Vincent Vatiguem, journaliste police-justice chez BFM TV, notamment sur les nouveaux formats du fait divers. Mais quand il est intervenu lors de sa table ronde, il a exprimé une chose marquante, et il n'est pas le premier journaliste à le dire, enfin, je l'ai déjà entendu d'autres journalistes, que dans les procès, les journalistes sont un peu les peintres justement de l'audience. Avec leurs plumes et finalement aux côtés des dessinateurs aussi qui eux sont accompagnés de leurs crayons. Est-ce qu'on peut dire que les journalistes, ils sont aussi des artistes à leur manière ?
C'est une jolie expression, je ne connaissais pas, je n'avais pas entendu être les peintres des audiences. Je trouve que c'est effectivement une assez jolie expression. Le tout est de, pour essayer de répondre à votre question, moi je crois à la nécessité d'affirmer une personnalité quand on est journaliste, c'est pas en se disant je rédige de façon la plus neutre possible, comme en m'effaçant derrière mon sujet, qu'on fait du bon journaliste. Je pense qu'il faut, à un moment donné, il y a un homme et une femme derrière un métier de journaliste, donc il faut le traduire. Et en même temps, il faut le conjuguer à une rigueur journalistique. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que faire apparaître sa personnalité, son style, sa manière de voir les choses, sa manière d'écrire, sa manière de raconter ou de faire un podcast, ou sa voix aussi, hein, parce qu'on l'a vu avec Fabrice Drouel ou avec Christophe Ondelat, une voix, ça compte. Oui. Quelle est la voix qui touche ou pas le public. Mais il faut le marier à une rigueur intellectuelle et une rigueur déontologique, parce qu'on peut pas, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, on est là pour... À un moment donné, si c'est passé ça à 17h27, il faut qu'on puisse certifier que ça s'est passé comme ça à 17h27. Donc il faut arriver à trouver ce point d'équilibre entre une rigueur professionnelle, une rigueur éthique, et ne pas brimer sa personnalité profonde et arriver à l'exprimer au travers de ça. Moi, je crois beaucoup à ce mariage un peu magique, qui n'est pas facile, hein, de trouver comment on peut être d'abord rigoureux et ensuite, au travers de cette conscience, de la rigueur, de cette contrainte, pardon, de laisser exprimer aussi sa sensibilité, son regard, parce que, par exemple, il y avait Pascal Robertia, pour moi, une des plus grandes chroniqueuses judiciaires qui est au monde, enfin, au journal Le Monde, pardon, qui était à la soirée d'ouverture sur le procès Mazan. Ben, je lis du Pascal Robertia, je sais au bout de trois lignes que c'est du Pascal Robertia, et ça me convient, parce que je sais que sa manière de regarder les choses, elle est différente, mais j'adhère ou j'adhère pas, mais c'est un individu derrière, c'est une femme qui... Et la manière dont elle disait, l'émotion qui la saisissait quand elle voyait les haies d'honneur de femmes qui, à chaque fois que Gisèle Pellicot entrait ou sortait du tribunal, ça revêt d'une émotion incroyable, parce qu'elle a vécu cette émotion. Et donc elle l'a traduit aussi.
Et justement, on parle du dessin, de la photo, parce qu'il y a du photojournalisme aussi, des reporters qui se spécialisent dans les photos et l'écriture. L'art et le journalisme se rencontrent régulièrement, selon moi, et il y a un lien qui se crée donc entre ces deux domaines. Est-ce que vous pensez que c'est important de pouvoir mettre l'art au service du journalisme ?
Vaste question. L'art au service du journalisme. Spontanément, j'aurais plutôt dit le journalisme au service de l'art, mais donc du coup, je me suis jamais posé la question sous cet angle. Alors, je vais vous la retourner, du coup, la question. En quoi l'art peut se mettre au service du journalisme ?
Moi, je le vois d'une façon... Enfin, je vais prendre l'exemple des photos notamment, parce que pour moi c'est ce qui est le plus parlant, mais il y a cette notion de pouvoir traduire au travers d'une image et avec une vision totalement artistique, de dénoncer et d'avoir aussi un côté militant et engagé au travers de l'art, et qui du coup forcément pour moi peut se mettre au service du journalisme. Et je pense notamment à des photos de guerre ou à une exposition qui avait été exposée à Paris, il me semble, de femmes photoreporters, en gros. Et c'est vrai que vous l'avez dit, et c'était un peu aussi mon autre question, de savoir comment est-ce que justement le journalisme, lui, se met au service de l'art. Mais il y a un peu ce lien justement entre les deux, où justement je trouve qu'il y a un échange entre le métier de journaliste et le domaine artistique. Et je fais le lien aussi avec les nouveaux formats. et les nouveaux journalistes qui sont notamment sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes comme YouTube, où il y a tout un processus de création dans le fait de proposer une vidéo ou de proposer un contenu qui est journalistique, mais qui est quand même réfléchi presque de manière artistique, comme un artiste, un auteur ou un dessinateur ou un musicien pourrait le faire.
Vous posez une question compliquée, parce qu'à la fois, je vous l'ai dit, moi je crois beaucoup à l'affirmation d'une personnalité, d'un style, d'une sensibilité, d'une originalité. Donc en ça, ça rejoint un peu la démarche artistique. Mais en même temps, l'artiste, il peut s'abstraire de toute réalité.
C'est vrai.
Et donc il a une forme de liberté absolue, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas plus simple, hein, puisque je pense que les contraintes peuvent être une source de liberté, mais ça c'est autre chose. Mais là... La difficulté, c'est que le journaliste, il ne peut pas s'autoriser ça. Il ne peut pas dire, bah tiens, je vais transfigurer le réel parce que j'en ai envie et parce que ça ferait une trop belle image. C'est le débat qu'on a eu hier, je ne sais pas si vous y avez assisté, sur le rapport entre les youtubeurs, les producteurs de contenu et les journalistes. Il pose la question que vous posez, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un domaine où, en gros, je n'ai pas de règles. Je peux partager et je peux avoir des milliers, des centaines de milliers, voire plus de followers qui me suivent dans mon histoire. Et je deviens donc une sorte de, moi-même, à mon corps défendant, quelqu'un qui informe les autres, donc un informateur, donc un producteur de contenu, donc quelque chose comme un journaliste. Et de l'autre, le journaliste, il s'astreint des règles, il y a des chartes. On a deux grandes chartes dans notre métier, vous les connaissez sans doute, hein, la charte de 1918, la charte de 71, où on a des règles. On ne peut pas dire, je vais le faire comme ça. Et non, c'est pas possible, parce qu'on est là aussi pour raconter le réel en prenant un certain nombre de principes sur... le respect des individus, sur l'anonymat, sur le fait qu'on n'est ni des juges, ni des policiers, ni des magistrats, on est des journalistes qui sommes des intermédiaires entre les différents acteurs de la société. Donc autant le journaliste se mette au service de l'art pour le valoriser, pour le critiquer, pour lui donner envie au public d'aller vers les artistes, etc., je vois bien, autant il y a une limite à la démarche artistique chez un journaliste.
Moi, je veux juste rebondir là-dessus parce que ma dernière question, elle se pose, est-ce qu'on peut dire que le journalisme est une forme d'art ? Et juste rebondir sur le fait que vous parlez des règles. Et en histoire de l'art, quand on étudie, je vais prendre notamment la période de la Grèce antique, où il y avait des règles justement à suivre dans la création d'une œuvre, je fais un très gros parallèle, mais le parallèle que j'ai envie de faire, justement, c'est ça. C'est de se dire qu'il y a quand même je trouve une touche artistique dans le domaine journalistique. Et justement, le fait d'avoir cette charte et ces règles à suivre amène aussi un peu un cadre artistique à tout ça.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a des contraintes qui sont facteurs de liberté.
Oui, oui.
De création, en tout cas. De création, plutôt que de... Parce que ça impliquait une contrainte, c'est souvent une source de créativité. Mais... Peut-être le mot art qui me fait un peu peur, c'est tellement vaste, mais je vais prendre Camus. Moi, j'ai un. Voilà, non, mais on a tous un peu des journalistes de référence. Pour moi, c'est Camus, parce que voilà, ça a été pour moi quelque chose de très important dans mon désir d'être journaliste, même si beaucoup le retiennent plus aujourd'hui son travail de philosophe. Mais l'écriture de Camus m'a touché. Enfin, c'était aussi une période géopolitique, c'est la guerre d'Algérie, c'était tout ça. Bon. Mais Camus. Qui pour moi est un des plus grands, est-ce que c'est de l'art ? C'est un écrivain, pour moi, remarquable, exceptionnel, etc. Est-ce que je classe ça comme un art ? C'est pas sûr.
Mais est-ce que, pourtant, la littérature est une forme d'art aussi ?
Oui.
Donc, est-ce que si on est auteur, on est aussi artiste ?
Je vous prends un contre-exemple. Chaque année, aux Assises, pour distinguer un peu toutes les formes du journalisme, on distribue des prix. Et ce soir, on va attribuer le prix du meilleur livre sur le journalisme et sa pratique, le prix du livre du journalisme.
Oui.
Un livre, je ne vais pas vous réveiller le palmarès avant l'heure, mais ce ne sont pas c'est des démarches qui n'ont rien à voir, et même si on a maintenant des fictions écrites par des journalistes, un bouquin de journalistes, ce n'est pas la même chose qu'un livre de fiction. Alors, vous verrez, au Salon du Livre samedi, il y a Fabrice Arfi, par exemple, grand journaliste d'investigation par ailleurs, pour la première fois, s'autorise un livre de fiction où il imagine une histoire à partir du réel, où il crée de la fiction. Donc on voit bien qu'il y a des points de jonction entre le journalisme et la fiction. Quand Florence Aubenas a un peu fait ça, Il y a plusieurs journalistes qui commencent à travailler. Delphine Minoui, qui sera également présente samedi au Salon du Livre du Journalisme à Tours, là, elle a écrit un bouquin sur Bajans, d'un sujet qu'elle connaît par cœur, les jeunes femmes iraniennes. Mais elle a reconstitué un personnage à partir de cette jeune femme qui s'est fait brûler sur sa poubelle parce qu'elle avait enlevé son voile. Et, enfin, un personnage horrible. Bon, on va peut-être laisser se faire une annonce. Mais elle a recréé du réel à partir d'une fiction. Mais est-ce que c'est dans de l'art pour autant le journaliste, il reste attaché au terrain, au réel. Il doit regarder les pieds dans la glaise, quand même.
Ok, par rapport à un artiste qui, on pourrait le dire, a un peu plus la tête dans son monde.
Voilà, et qui peut partir vers l'éther, vers le ciel, vers tout ce que... Le journaliste, il faut qu'à un moment donné, il parle de l'humanité, du réel, du monde tel qu'il va. Et je pense qu'il ne peut pas s'en échapper plus que ça. Après, ça ne l'empêche pas de créer, ça ne l'empêche pas d'avoir une démarche de création, d'écriture audiovisuelle, de tout ce qu'on veut. Mais son premier boulot, c'est d'aller raconter le monde tel qu'il est.
Très bien. Mais du coup, vous pensez quand même qu'il y a ce lien qui se fait entre le milieu, entre guillemets, de l'art et du journalisme ou pas ?
Encore une fois, votre question m'intéresse parce que je ne me la suis jamais posée comme ça. Mais je ne serais pas affirmatif. Je pense que c'est des domaines qui se tutoient, qui dialoguent. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie différence. Quoi. Il y a d'un côté pas de règles.
Et d'un côté... certaines règles.
Voilà. Parce que vous dites, vous avez cité la Grèce antique, etc., mais l'art est une série de remises en cause permanentes,
oui.
Où on cumule, où justement on fait péter les règles, on en remet d'autres. Le journaliste, normalement, il n'a pas à faire changer ses règles. Que vous fassiez votre travail de journaliste sur un libelle papier du 19e siècle ou que vous le fassiez sur YouTube, c'est les mêmes règles, c'est le support qui change. C'est la technique qui change, mais la règle de ce qu'est le journaliste et de ce qu'il peut apporter ne change pas, je crois. Pourquoi j'ai créé les Assises aussi il y a 18 ans, c'est de dire, le journaliste, ce n'est pas une technicité. Je crois profondément à ça. Il faut savoir se servir du web, il faut savoir se servir d'une caméra, il faut savoir tout ça. Mais ce n'est pas ça, le métier. Ça, c'est les outils pour le faire. Mmh. Et le journalisme, c'est quel que soit le support qu'on choisit, c'est d'aller sur le terrain, raconter des histoires, les rendre compréhensibles, le faire rigoureusement, honnêtement, pour que ça serve à nos publics. Et restons bien là-dessus. Quoi. C'est pas... et les évolutions technologiques, elles seront multiples, elles continueront de bouleverser le métier tous les jours. Quand j'ai créé la première édition des Assises en 2007, il n'y avait pas X, il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Facebook, tout ça n'existait pas.
Oui.
Et donc et maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Puis peut-être que demain, il y aura encore autre chose qui va encore bouleverser. Mais le journalisme, son essence, elle ne va pas bouger.
Non, c'est très bien dit.
Merci.
Merci pour votre réponse et merci pour votre participation.
Eh bien, bravo et merci à Radio Campus.
Merci.